Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En ce lendemain de jour de grande grève, quoi de mieux que d'envisager son week-end en se programmant un petit ciné, comme on dit. Au programme de votre émission cinéma de ce mois-ci, La banlieue en pleine gueule, pourrait-on dire, avec Les Misérables, film qui a, dit-on, bouleversé Emmanuel Macron. Mon oncle, à 100 lieues de ce premier film, manifeste de poésie contre la course en avant de la dite modernité. Et puis La vie est belle de Frank Capra, fable pour les cœurs purs sur le sens caché de nos vies, petites mais si grandes. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce vendredi matin. Ravi de retrouver nos deux messieurs cinéma, Louis-Marie Soler, toujours producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse.
Toujours.
Mercredi, 19h, toujours.
Toujours le mercredi à 19h.
Voilà, bienvenue à vous et merci d'être fidèle. Paul Dima, un des messieurs cinéma ou monsieur cinéma, entre autres des centres jésuites Cotopaïs, à Toulouse et en Occitanie. Bonjour Paul.
Bonjour Louis-Marie, bonjour à tous.
Et tous deux animateurs, donc pour rappel du ciné-parole au cinéma L'ABC. Ça tombe bien, c'est incroyable comme on fait bien les choses. On va commencer par le film qui est à l'affiche, donc avant du chef-d'œuvre, parler du chef-d'œuvre dit humaniste et du chef-d'œuvre spirituel de ce mois. C'est Les Misérables de Lajli. Les Misérables, donc, qui a été primé à Cannes, prix du jury, avec une, comme affiche, on voit les Champs-Élysées remplis après une victoire de l'équipe de France. Film donc, film explosif, puissance explosive, attention, uppercut, dit le journal La Croix, dans l'extrait que vous avez mis sur les deux projections donc, à venir. On donnera toutes les dates, on va commencer par écouter la bande-annonce.
J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote.
Contrôle de police, vous faites quoi, là?
On attend le bus.
Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça.
Eh, c'est bon, c'est bon.
Ça va, je gère.
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
T'es contente, là?
Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Eh, hey, les gars, soleil.
Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
C'est quoi, les chats? Quand t'as volé un lion?
Ouais.
Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là!
Vous n'éviterez pas la colère et les cris.
Putain! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé.
Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone? Là, il y a un gamin inconscient, là.
C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo, si on veut.
C'est quoi votre problème, hein? C'est quoi votre putain de problème, là? C'est moi, la loi!
Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là? C'est un accident?
Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure.
C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui.
Tu vas trop loin, là!
T'auras jamais l'esprit BAC, toi.
Parce que je joue pas au cow-boy.
Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous.
Voilà, Les Misérables, donc, de Lajli, film, donc, coup de poing s'il en est. Moi je suis très heureux de parler de ce film, même si je ne l'ai pas vu, mais je vais m'empresser d'aller le voir, parce que les occasions sont beaucoup trop rares de parler des banlieues qui sont souvent les grandes oubliées, hein, des politiques publiques. En tout cas, c'est maintenant, il y a presque de tout le bord politique, c'est ce que disent les maires de banlieue. Alors on va essayer de situer l'histoire. Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre donc la brigade anticriminalité BAC de Montfermeil dans le 93. Tout est vrai, ou presque. De Montfermeil existe bien. C'est bien dans le 93 et c'est bien en région parisienne. Il fait la rencontre donc, de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Guada, deux baqueux, qui vont le faire plonger donc, dans l'univers d'une des cités. C'est Les Bosquets, c'est ça, hein, Louis-Marie?
C'est ça, c'est sur Les Bosquets.
Film, alors je lis là, je commence par les critiques. Elle est Lacroix, avec cet uppercut grand prix du jury au Festival de Cannes. Ladji Lee signe une œuvre sidérante, impressionnante de maîtrise et de puissance narrative. De Figaro, voici la banlieue comme si vous étiez donc comme vous ne l'avez jamais vu. Et Télérama, à Montfermeil, la cité des bosquets s'embrase à la suite d'une bavure policière filmée par un enfant. Le cinéaste habitant de ce quartier, vous allez me dire tout ça, transcende le film de banlieue magistral. Louis-Marie, c'est pas la première fois qu'il y a des films sur la banlieue. Pourquoi est-ce que ce film frappe autant ?
Mais parce que c'est le point de vue et la façon de raconter l'histoire qui change. On pense évidemment à la vision de ce film, on pense à La Haine de Kassovitz. On est à un anniversaire même d'ailleurs, on a dépassé les 20 ans. Et puis il y a aussi le film de Jean-François Richer, Ma cité va craquer, qui racontait aussi, qui prenait place justement dans une de ces banlieues difficiles. C'est comme ça qu'on a l'habitude de les qualifier. Et celui-ci est différent. Les autres n'étaient pas manichéens non plus, mais le point de vue n'était pas le même. Ici,
on découvre...
Et puis les années ont passé. Et rien ne s'est arrangé. C'est-à-dire qu'on parlait d'un anniversaire pour La Haine. Oui, c'est ça. Ça fait plus de 20 ans. Et finalement, on se retrouve dans une situation qui est pire que celle qui est décrite dans La Haine, finalement. Le film de Mathieu Kassovitz, qui avait été récompensé à Cannes, il me semble. Mais en tout cas, qui avait fait de l'effet. Pas le même effet que celui de Ladji Lee, mais quand même. Alors, l'affiche, vous l'avez dit, celle du film Les Misérables, eh ben, c'est les Champs-Élysées après la victoire de la France en l'équipe de France dans la Coupe du Monde 2018. Hein. Les premières scènes qu'on voit dans le film, c'est ça. C'est les gamins du quartier vont voir la finale. Alors, ils ne vont pas voir la finale, évidemment, pas au stade, puisque de toute façon, ça ne se passait pas à Paris. Ça se passait à Moscou. Mais ils vont dans un bar.
Le triomphe.
Et le triomphe. Alors, c'est assez adroit. Ce qu'il fait, c'est même une forme de paradoxe, d'une certaine façon, puisqu'on voit un des gamins, probablement le plus petit, il a fait exprès, hein, qui est littéralement enveloppé par un drapeau français. On ne voit guère que sa tête qui dépasse. Et tout le monde crie à l'unisson, tout le monde est derrière l'équipe de France. Et en plus, elle gagne la finale, et de quelle manière ? Donc, y a des buts, enfin, c'est chaud, et on est emporté dans cette histoire. Et puis après, on revient dans la cité, et on replonge. Et c'est une parenthèse, finalement. Est-ce qu'on peut parler de parenthèse ? Cette introduction montre le gouffre qu'il y a entre les aspirations de ces enfants et ce qu'ils vivent vraiment.
Alors, il faut dire aussi que Ladji Lee est du coin. Hein, il est issu de cette cité. Ça, c'est important. Donc, c'est un film qui a été largement primé. J'ai dit prix du jury. Il a eu d'autres prix. Prix de la citoyenneté, du cinéma positif, etc. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas... si j'ai bien compris, il n'est pas manichéen. C'est-à-dire que tout le monde vit dans la cité. Tout le monde fait ce qu'il peut, marque son territoire. C'est un autre angle de vue.
Il n'y a pas les bons et les méchants. Tout le monde est dans le même pétrin, que ce soit les baqueux, que ce soit les enfants, que ce soit ceux qui essaient de maintenir plus ou moins les rapports de force entre les différents groupes sociaux, entre les jeunes, les adultes, les tenants religieux. On voit que c'est une société où plus personne ne peut gérer ce qui va se passer. Voilà, et que ça va péter à un moment.
On va écouter un deuxième extrait. Ce sont les baqueux qui interpellent quelques jeunes filles qui sont à un arrêt de bus.
Bonjour, mademoiselle. Contrôle de police. Vous faites quoi, là ?
On attend le bus.
Quoi ?
On attend le bus.
Vous attendez le bus, là ? C'est à toi, ça ? T'as quel âge, toi ?
15.
15 ans ? Et à 15 ans, tu fumes ? Ça sent le shit, ça ? Hein ? Bon, il est où ? Tu l'as mis
Vous
où ?
Vous avez pas le droit de m'assumer.
Je fais ce que je veux. Tu l'as mis où ?
Vous avez pas le droit de m'assumer comme ça.
Comment ça, j'ai pas le droit ? C'est l'état d'urgence, si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris ?
Mais c'est pas normal.
Ferme ta gueule, toi.
Vous avez pas le droit de faire ça.
Tu veux faire 48 heures ?
Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit.
Eh, hey, c'est bon, c'est bon.
Ça va, je gère. T'as trouvé ça où ? Tu veux que je continue à te palper ou pas ? Tu fais quoi, là ?
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
T'es contente, là ? Petite conne, va. Allez, dégagez, là. Toi, arrête de fumer, c'est mauvais pour la santé. Hein ?
Voilà, alors là, les baqueux sont pas vraiment à leur avantage. On entend bien dans les dialogues, hein, toujours dans... Enfin, c'est ce qu'on peut trouver souvent dans... pas dans toutes les banlieues, mais on va dire dans les banlieues les plus chaudes, et pas auprès de tous ses habitants, mais un certain nombre, c'est toujours à couteau tiré. Hein, on se donne des coups avec les mots.
On est à la lisière chaque fois.
Ouais, donc, il a été plus ou moins acclamé au Festival de Cannes. Enfin,
il n'a pas plus ou moins, il a été acclamé.
On voit qu'ils sont salués. Qui est ce Lajli ? Tout le monde dit que c'est un grand qui vient de naître.
Ben, Lajli, ça fait longtemps qu'il filme. Il a commencé par filmer son quartier, ce qui se passait. Il suivait les policiers et il a eu maille à partir avec eux parce qu'il ne voulait pas qu'il filme. Et ça fait longtemps qu'il filme. Et tout ça naît d'une expérience qu'il a vécue, hein, de la mort d'un jeune adolescent au moment d'une interpellation qui avait suscité beaucoup de mouvements. Il y avait eu des mouvements terribles dans la cité. Et tout ça, il l'a filmé. Et puis après, il a créé avec d'autres un lieu, un endroit de formation pour le cinéma. Et ce lieu s'est appelé, association, je ne sais pas comment le qualifier.
Un collectif.
Ce collectif, voilà, c'est un collectif plutôt. Courtrajmé, parrainé par Vincent Cassel. Et qui a révélé notamment Lajli, mais d'autres réalisateurs. Et c'est comme ça qu'il est passé à la réalisation d'un court-métrage, d'autres aussi, pas un seul, mais il y a un de ces courts-métrages qui inspire d'ailleurs ce long-métrage, qui s'appelait aussi Les Misérables. Et Les Misérables parce qu'à Montfermeil, eh bien, serait passé Victor Hugo et qu'il aurait écrit une partie de son fameux livre.
Il est fort. Paul Dima, pourquoi est-ce que c'est un beau film ?
C'est un beau film parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'est pas manichéen, hein, il n'y a pas les salauds et les gentils. Voilà, on voit bien la complexité de cette cité qui ne fait plus corps. C'est-à-dire que les différents groupes sont tous un peu désemparés par ce qui se passe. D'abord un sentiment d'abandon. Les années, d'ailleurs le réalisateur le dit, depuis le plan de restructuration des banlieues en 2003, il s'adresse un peu aux politiques, ce film. Rien n'a été fait depuis le plan Borloo. Et c'est un lieu qui se dégrade et où les antagonismes deviennent de plus en plus forts et un climat où plus personne n'est en mesure de gérer ce qui se présente. Il suffit d'une étincelle, ici un incident, des gamins qui volent un petit lionceau, un peu comme un petit nounours, quoi, ou un petit...
Ben c'est une peluche.
Une peluche.
Vivante. Et,
sauf que ça met tout en ébullition.
C'est une histoire vraie, d'ailleurs.
C'est une histoire vraie. Les tenants du cirque qui viennent faire un raffut pas possible à un prétendu maire qui n'est pas maire du tout, mais qui essaie de gérer les gamins et tout ça. Et on voit que tout part parce qu'il n'y a aucune limite. Et puis personne ne peut gérer, il n'y a plus de cadre. Une cité dans laquelle les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a les grands frères, il y a les religieux qui essaient de mettre un peu, mais bon, ils ne maîtrisent pas grand-chose non plus. Et ben voilà, tout est prêt à exploser, et c'est ce qui se passe dans le film.
Il n'y a même plus ces lieux pour les enfants qui existaient. Non. Déjà, quand on parlait de la haine, il n'y a même plus ces lieux, centres de loisirs ou même colonies de vacances, comme on disait. Ouais. Et pour les occuper, au point où ils bricolent une piscine, ils font du toboggan dans une friche, un terrain vague, quoi.
Et à la fraîche.
À la fraîche, voilà, ils essayent, parce qu'en plus, il fait chaud, c'est l'été.
Alors, messieurs, je voulais rajouter une ou deux choses pour finir, peut-être notre extrême, vous pourrez réagir, ça ne résume pas la situation de la banlieue. J'ai trouvé une interview de Xavier Lemoine, qui est le maire de Montfermeil, depuis 2002, qui est quand même un homme assez respecté auprès de beaucoup de maires de banlieue. Alors lui, ce qu'il dit, c'est qu'il reconnaît que la situation est dure et que c'est un très beau film. Il dit qu'il a un point de désaccord avec le réalisateur, Lajli. Il dit que ces images n'auraient pas pu être tournées il y a 10-15 ans que la situation date, enfin ce qu'il décrit, c'est plutôt les années 80-95, qu'il y a quand même des choses qui ont été faites depuis, qu'on peut pas dire que rien n'a été fait. Il cite l'ANRU, qui c'est ce qu'on est selon cet réaménagement des banlieues. Et moi j'ai souvenir à cette antenne du père Jean-Marie Petitclerc, je sais pas si vous dites quelque chose, qui est un salésien, un homme de banlieue engagé dans les banlieues de Lyon, et qui disait, quand on dit souvent qu'il y a rien qui est fait pour les banlieues, si rien n'était fait pour les banlieues, nos banlieues seraient comme les banlieues américaines. Elles seraient encore pires. Alors, certes, le plan Macron, ou celui qui avait été présenté par Borloo, a été retoqué par Macron, mais de là à dire que rien n'a été fait, peut-être que... Voilà, c'est peut-être le défaut des coups de poing, c'est d'être trop caricatural, non, Paul Dima ?
Alors,
il y a quand même beaucoup de gens qui se donnent dans les banlieues, beaucoup d'argent qui est mis dedans, beaucoup de bonne volonté aussi.
Oui, c'est... alors, de fait, si on prend le film pour une photo exacte de ce qui se passe aujourd'hui, peut-être qu'on peut dire qu'il y a de l'exagération. On ne prend pas en compte des réalisations qui, de fait, ont eu lieu et qui permettent que des jeunes puissent se rassembler, etc. Mais le propos du film est peut-être de dire « voilà ce qui se passe ». Lorsqu'il n'y a plus de lieu d'accompagnement, de lieu d'éducation, de lieu... Voilà. Une cité abandonnée à elle-même, où les différents groupes essaient chacun de survivre, d'ailleurs en lutte avec les autres, y compris les représentants de l'ordre, ça ne peut aboutir qu'à une explosion.
Et ben voilà, ben on espère que ce film qui a, dit-on, bouleversé Emmanuel Macron va inciter les pouvoirs publics et ce gouvernement à réinviter Jean-Louis Borloo et à se repencher sur un grand plan banlieue qui nous avait été promis. Il n'est pas coutume que je donne mon avis, mais là, je m'en prive pas. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler du chef-d'œuvre humaniste du mois, Mon oncle de Jacques Tati. Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Paul Dima, monsieur cinéma des Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest, et Louis-Marie Salaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, notre émission cinéma du mois. Donc deuxième film, le chef-d'œuvre humaniste du mois, Mon oncle de Jacques Tati. Voilà, on a entendu donc, on va dire, c'est quoi, on peut dire là.
C'est le générique.
C'est la bande musicale, c'est le générique.
C'est le générique.
Qui revient un peu tout au long du film.
Oui, aussi, hein. C'est le thème principal.
C'est le thème principal. Un marteau piqueur bourré de fleurs, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
ça dit bien aussi un peu ce film. On va pas passer de bande-annonce, hein, parce que c'est un film en partie muet. L'histoire. Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, et on le comprend parce que ses deux parents, monsieur et madame Harpel, résident dans une villa luxueuse et moderne où ils mènent une vie monotone et aseptisée. En tout cas, c'est ce que donne à voir le film. Et c'est l'histoire de ce monsieur Hulot, donc, qui est son oncle, et de ce petit Gérard, de leurs 400 coups, et de deux France. Une France, on va dire, à l'ancienne, à l'époque, comme diraient certains, et puis la France moderne, qui court après la modernité. Tiens, pour une fois, on va laisser Paul Dima compléter la présentation de l'histoire. Difficile de raconter l'histoire, Paul.
Alors, l'histoire, c'est une suite de péripéties entre ces monsieur, madame Harpel, bien comme il faut, très formatés, un peu à la Botero d'ailleurs, qui rêvent de luxe, de modernité, mais dans un univers bleu.
À la Botero parce que ils mangent bien.
Ils sont plutôt
ils sont ronds.
Bien en chair, l'un et l'autre. Et alors qu'ils ne sont que dans les conventions, le paraître, le modernisme, mais vide et creux. Et dans lequel leur enfant s'ennuie ferme, pour parler correctement. Et cet enfant trouve son salut grâce à son oncle, donc le frère de sa mère d'ailleurs qui rêve de le marier à une voisine complètement coincée et de lui offrir un boulot dans l'entreprise de son mari.
Son mari qui le regarde un peu comme un raté, en l'occurrence.
Oui, alors parce que ce monsieur Hulot, c'est... le poète ingérable, inclassable, qui porte un regard distant et pointu sur tous les dysfonctionnements d'un univers qu'on voudrait parfait, bien aseptisé et tout. Et lui, il est toujours à côté. Il est à côté, il détraque les outils de la maison et qui devient une maison qui n'est pas une maison, en fait.
Alors, les maisons, parlez-nous des deux maisons. Allez, Louis-Marie Solaire.
Ah,
il y a deux maisons comme en vis-à-vis dans ce film.
La maison des Harpel est assez extraordinaire, une espèce de moderniste minimaliste avec... ce qui est frappant, c'est qu'il y a des objets modernistes
qui
n'existent pas au XXIe siècle. Chez nous, là, en ce moment, il y a la machine qui fait sauter les steaks.
Oui.
Le thermomètre à œuf, il y a des trucs extraordinaires.
Vous n'avez pas ça, vous, chez vous, c'est...
Ah non, j'ai pas la machine qui fait sauter les steaks, non. Et c'est très... C'est pas confortable, c'est... Alors, ça plaît aux parents, à la mère en particulier, oh, comme c'est beau, hein. Mais... Ça n'a pas d'âme, c'est
et,
bleu.
C'est très difficile à maîtriser aussi. Ça saute de partout dans sa cuisine. Elle arrive très mal à domestiquer ses outils domestiques.
D'ailleurs, on n'a pas envie de manger ce qu'elle prépare.
Hein. Ah non, pas vraiment, non.
D'ailleurs, on va écouter un extrait, non ? Il me semble que c'est le premier extrait.
Où il y a sa voisine, justement, qui vient visiter la maison.
Voilà, donne à voir ça. Voilà, on aimait tellement le thème musical qu'on s'est trompé.
On s'est trompé, donc on va trouver.
On va y arriver, bien sûr. On est magicien. Donc l'histoire, il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire. La première, c'est que c'est un film donc presque muet.
Oui.
Donc c'est très original, non, dans l'histoire du cinéma. Moi, qui suis moins cinéphile que vous, par moments, ça m'a fait penser à Charlot.
Mais c'est ça, c'est exactement ça.
C'est fait exprès.
C'est volontaire. C'est un héritier de Charlie Chaplin, c'est un héritier de Keaton. Tout est dans la situation, dans le comique de situation. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, tout ça était parfaitement écrit, maîtrisé, c'était millimétré. Pour arriver à voir ce qu'on voit à l'écran, il y a un travail fabuleux, énorme. C'est terrible. Il était d'une exigence extraordinaire.
L'année de sortie, faut le redire, Tati. C'est...
Milieu des années 50. Hein, je n'ai pas sous les yeux, mais...
1957, je crois.
Oui, et tout est dans la disposition, les mouvements des personnages, rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que ni le décor, ni l'évolution des personnages dans le décor n'est fait au hasard. Tout est parfaitement, je le disais, je me répète, tout est parfaitement maîtrisé.
Parlez-nous de la bande-son aussi. C'est-à-dire que, enfin, ce qui est assez étonnant avec ce film, c'est que à la fois, il n'y a pas de dialogue, et en même temps, il y a toujours du bruit, Et tout ce bruit signifie quelque chose, Paul.
C'est extraordinaire. La bande son est comme des gros plans de son, c'est-à-dire des sons très proches, qui permettent de donner le sens d'un plan large. Par exemple, Madame Harpel, on entend toujours le claquement de ses talons, soit sur les dalles du jardin, très millimétré, il faut marcher sur les dalles, pas à côté, et partout dans la maison. Donc, ça fait un peu objet, mais pour dire que Madame Harpel est devenue un objet elle-même, et quand on entend les talons, c'est la dame, voilà. Il y a aussi un magnifique poisson fontaine, élément de décoration dans la maison. Et à chaque fois qu'un invité arrive, madame ouvre le robinet de la fontaine, parce qu'autrement, il ne faut pas dépenser d'eau. Voyons.
Quand les ploucs qui se pointent au portail, on éteint la fontaine.
Voilà, c'est ça. Quand quelqu'un arrive et puis on ne veut pas du toc, on éteint le jet d'eau. Puis on se rend compte que c'était la voisine. Alors hop, on rallume le jet d'eau. Enfin, il y a un comique extraordinaire qui ne passe pas par le dialogue, mais qui passe par le jeu des attitudes et des sons. Et il y a un autre aspect, c'est la lenteur du film. C'est-à-dire que c'est la construction merveilleuse de Tatichev, de Jacques Tati.
C'est fait exprès, je veux dire, c'est un rythme ralenti.
Oui,
c'est choisi.
Parce qu'il invite le spectateur à explorer ce qu'il voit. C'est-à-dire, il y a des plans larges, Et il faut essayer de bien regarder ce qui se passe dedans pour en rire. Et on voit qu'il rejoint le regard des enfants qui, par exemple, tentent des embuscades facétieuses par le son. Ils sifflent ou ils font un pneu qui se dégonfle et tout. Et les gens regardent et paf, ils se mettent le nez dans le réverbère et tout le monde éclate de rire. Donc ça, c'est l'humour de situation et qui est rendu par la lenteur et par le son et l'image. À un moment... Monsieur Hulot est embauché par son beau-frère dans une usine, et puis il y a tout d'un coup qui fabrique des tuyaux en plastique,
oui.
et tout d'un coup la machine à faire les tuyaux s'enraye évidemment parce qu'il s'endort et tout ça, enfin ça dysfonctionne, et ça fait des bloup, 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 à chaque fois que ça fait un bloup, le tuyau fait comme un saucisson. Et alors il y a un jeu musical et visuel sur cette usine qui fabrique des tuyaux remarquablement calibrés et tout, qui se met à faire des espèces de boudins informes, et on éclate de rire.
Des chapelets de boudins.
On va écouter un deuxième extrait.
Je ne voulais pas vous déranger. Je vous avais en plein travaux.
Le jardin est à peine terminé.
En effet, je vois. Mais c'est que tout ça a pris du...
Oh, vous voyez, ça commence à prendre tournure. Alors le hall, vous connaissiez.
Bravo.
Oh, c'est si pratique. Tout communique. Oh, c'est sûrement Gérard.
Je vous en prie.
Voilà, fin de l'extrait. Donc on l'a retrouvé, c'était le précédent. C'est pas grave, comme ça on aura un peu de rab. Ce film de Jacques Tati, voilà que j'en perds mon latin. Louis-Marie Soler, Jacques Tati, dites-nous un peu plus peut-être sur l'homme ou sur le cinéaste, et puis sur les autres films qu'il a fait, les vacances de Monsieur Hulot, et après donc Playtime.
Il y a eu Jour de fête, premier Jour de fête où il joue le rôle d'un facteur, et on suit la tournée de ce facteur, et le facteur qui vient d'avoir des informations des États-Unis, et ça il décide de faire sa tournée à l'américaine. Il fait l'hélicoptère, c'est assez savoureux. Ce qui est assez savoureux, c'est qu'à un moment, il y a une course cycliste, lui il est sur son vélo tout raide, les autres sont tout tordus sur le vélo, et il les dépasse tous parce qu'il fait une tournée à l'américaine.
Mais alors le cinéma de Tati, c'est quoi
le cinéma de Tati, c'est ça, il est en plein dans c'est le cinéaste qui a montré ce qu'étaient les 30 glorieuses finalement. L'évolution, on le voit dans Mon Oncle avec cette envie de modernisme, on parle, c'est la fin de la guerre. Et puis, on découvre qu'il y a une France, il faut tout reconstruire. Et on découvre des congés payés. Les vacances de Monsieur Hulot, c'est une histoire de congés payés un peu. Hein. Oui, oui. On les voit partir sur les routes. Après, on s'installe, on construit des maisons, on fait des choses. Oh, tout communique. Et puis après, il y a la voiture aussi.
Mais où va-t-on, c'est ça ?
Ben voilà.
Et c'est les films en général, enfin, tous les films de Hulot, de Monsieur Hulot, tous les films de Tati posent un peu ces questions-là ?
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous pouvez dire Hulot pour Tati, puisque c'est lui qui interprète M. Hulot,
voilà,
chaque fois, sa grande silhouette des Jean Gandet. Mmh. Alors, vous savez que maintenant, on n'a plus le droit de fumer. Et donc, mon oncle, maintenant, quand on le voit sur son Solex avec son petit neveu sur le porte-bagages, à l'époque, il fumait la pipe. Et on a enlevé
la pipe.
Pour mettre un petit moulin. Mmh.
Ce qui dit d'autres choses de notre époque. Allez, on va se faire plaisir, on va écouter un autre extrait.
Viens dire bonjour, s'il te plaît. La main droite, mon chéri.
Bonjour.
Et maintenant, je vous laisse, car j'ai encore des...
Je vous en prie, faites. Alors, on a mis une belle cravate. Hein? On est un grand garçon. On est bien sage. Moi, je connais de jolies histoires. Et je fais de belles cocottes en papier.
Voilà, deuxième extrait. J'entends presque les auditeurs rigoler. Paul Dima.
Et voilà celle que Madame Harpel rêve de marier
à Monsieur Hulot.
On voit bien que c'est pas pensable.
Ça peut pas marcher.
Alors, pourquoi est-ce que c'est un très beau film, un chef-d'œuvre, c'est un film à voir, Paul Dima?
Parce que il y a derrière le côté drôle et amusant un regard qui est pas dénonciateur de la modernité, mais qui est un regard critique sur mais qu'est-ce que font ces gens-là, vers quoi ils vont, quelle humanité se crée. Et alors ils dénoncent le côté inhumain du monde technique qui n'a pas de finalité en lui-même sinon que la technicité et le côté un peu mécanique de tout. Et Hulot, lui, c'est le poète, l'enfant qui met en valeur la relation humaine, la chaleur. On voit la voisine qui dit « Ah !» tend la main, enfin, on sent le ton, c'est poussé à la caricature, mais on voit une humanité figée, glacée dans le paraître, et puis qui a oublié de regarder, de voir, de vivre, de ressentir, de faire un pas de travers, voilà.
Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, non, simplement, j'avais lu dans une critique qui citait Baudelaire, et Baudelaire avait dit « Le rire des enfants, tout à la joie de contempler ». Bien, c'est ça qu'on voit, c'est le rire des enfants, tout à la joie de contempler. Et il ajoutait « Est-ce plutôt le sourire, quelque chose d'analogue au balancement de queue des chiens ou au ronron des chats ?» C'est ça, on est bien, on rit, et avec Monsieur Hulot et mon oncle, on est bien.
Ça, c'était de Baudelaire ? Toute la citation était de Baudelaire ?
Oui, toute la citation est de Baudelaire.
Voilà, bravo, puisque quand même, ça commence par des chiens, justement, qui se font plaisir à aller dans les poubelles. Oui. Et on s'amuse avec les chiens, c'est les premiers plans de ce film. Très beau film, Mon oncle, de Jacques Tati, 1958. On a oublié de dire qu'il avait été primé, mais peu importe. C'est un très beau film. On fait une deuxième pause. Introduisez-nous la deuxième pause musicale, Louis-Marie Soler.
Non, on n'écoute pas Pierre Etex.
On n'écoute pas Pierre Etex, mais si, on écoute Pierre Etex, en plus on a encore 3 minutes.
Est-ce qu'on a le temps?
Qui est Pierre Etex, Louis-Marie Soler?
Mais Pierre Etex, c'est un grand monsieur du cirque, mais aussi du cinéma. Il a fait beaucoup de choses, il avait plein de cordes à son arc, et j'ai eu la chance, voire le privilège, de rencontrer Pierre Etex peu de temps avant qu'il nous quitte. C'était déjà un vieux monsieur, mais une classe folle, extraordinaire. Et Pierre Etex a fait ses premières armes au cinéma pour Jacques Tati. Et travailler pour Jacques Tati, c'était pas évident. Et vous allez comprendre que Pierre Etex, c'est un monsieur très doux, qui aimait beaucoup les gens, et il parle de Tati, et on se rend compte que c'était difficile de travailler avec lui. J'ai eu la chance de la rencontrer avec nos amis Pierre Bruel et Éric Dupri, qui à l'époque s'occupaient du spectacle vivant.
L'argument était d'une simplicité enfantine. C'est un couple de bourgeois dont le père a une usine, mais ils ont un enfant qui s'ennuie. Heureusement, il y a l'oncle qui vient le plus longtemps pour le sortir. Voilà, point final. C'était ça l'argument. Alors, fallait chercher toutes les situations dans lesquelles ils pouvaient se retrouver ensemble, etc. etc. Et puis, il me disait, l'oncle habite dans un quartier très différent de celui où habitent les parents d'enfants. Et donc, j'ai donc cherché des croquis de la villa Arpel, dont il disait qu'il faudrait que ça ressemble à une usine à gaz. Évidemment. Et puis la maison de Hulot. Alors la maison de Hulot, ce fut vraiment très difficile, parce que il voulait que Hulot arrive chez lui par un itinéraire invraisemblable. Et pour définir cet itinéraire, il me disait qu'il faut que vous trouviez des ouvertures bizarres. Alors j'allais à Montmartre, voir dans de vieux immeubles, une soupente, comment était telle petite fenêtre, tel passage où on ne voyait que les pieds, un autre où il y avait un petit bout de balcon qui reliait deux blocs du bâtiment, enfin et où le personnage apparaissait tantôt de dos, tantôt de face, on ne voyait que la tête, on ne voyait que les pieds, etc. etc.
Voilà, dans cet extrait, il ne dit pas de mal de Jacques Tati.
Non, non, c'est parce que
vous avez été un peu fort.
Ouais. Non, il le sous-entendait. Il dit jamais de mal de Jacques Tati parce que c'était quelqu'un qui était d'une douceur et d'un professionnalisme extraordinaire, Pierre Etex. Non, non, mais au ton et à la façon dont il parlait, on se rendait compte que c'était pas facile de tourner avec Tati, puisqu'après, on n'a pas mis la suite, mais il explique pour arriver à faire ce fameux décor, la fameuse maison de Hulot, de mon oncle, un an et demi pour arriver à faire ce que voulait Tati.
Mais oui, mais on n'a rien en rien, hein, sans rien. Voilà, c'est de l'orfèvrerie et c'est du cinéma. Vous nous introduisez la deuxième pause musicale ?
La deuxième pause musicale, c'est Dimitri Tiomkin qui a composé la musique de probablement un des plus grands films et des plus célèbres de Frank Capra dont nous allons parler.
La vie est belle. Le grand écran, c'est donc l'émission cinéma du mois de Vivante Église avec Paul Dima, donc intervenant cinéma au Cotopaïs, ses centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Soler, producteur donc de l'émission cinéma de Radio Présence, en tout cas labellisée elle comme telle, les mercredis soirs de 19h à 20h. Troisième film, La vie est belle de Frank Capra. C'est notre chef-d'œuvre spirituel du mois, en cet avant. C'est un film qui parle de Noël. Il y a même des scènes qui se passent à Noël, en tout cas à la fin du film. Très très beau film s'il en est, sorti en 1946. L'histoire. Dans la petite ville de Bedford Falls, dans l'état de New York, à la veille de Noël 1945, un certain George Bailey se trouve dans une situation bien périlleuse. Ce George Bailey, c'est un peu un bon samaritain des temps modernes, qui n'est pas dépeint avec ironie, qui a une entreprise qu'il tient de son père, qui aide à donner des crédits immobiliers auprès des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des belles maisons. maison. Bref, c'est un homme fort charitable. Il se retrouve dans une situation extrêmement périlleuse. Il désespère et il a une visite d'un ange de seconde classe qui s'appelle Clarence. Et cet ange va travailler à lui sauver la mise. Beaucoup d'autres choses à dire. J'ai trouvé des critiques, probablement à l'occasion d'une rediffusion ou une fois où c'était passé à la télé. Libération. Un film vertigineux qui prouve que le fameux optimisme de Capra, pardon je m'étouffe, n'a rien d'un credo scout, mais tient plutôt de l'acte de foi quasi désespéré mêlé de réalisme acide. J'ai trouvé que c'était une belle citation, je la redonnerai. Télérama, fable morale, sociale, humaine, comédie américaine effervescente, récit fantastique et mélodrame assumé, tout se fond en une composition équilibrée, colorée, inouïe, magistrale. Le monsieur cinéma de Radio Présence, que dit-il de La vie est belle de Frank Capra? C'est quoi? C'est un conte?
C'est tout à la fois, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, vous savez. À la fin de la projection de ce film, on a toujours une réaction, hein, à la fin d'un film. Hein, on est comme ça, un peu agacé, énervé quand le film ne correspond pas vraiment à ce qu'on attendait ou qu'on a été un peu déçu. Mais celui-là fait partie de ces films dont on se dit, au moment où on voit le fameux The End, hein, qui m'a marqué quand j'étais enfant, The End, c'était quelque chose, voilà, c'est fini, puis on est là assis, puis on dit, mais, ben mince, il y a le moment de flottement, on dit, mais mince, déjà, et on a ce sentiment d'avoir vu un grand film à tous les sens, parce que c'est beau, parce que c'est humain, parce que c'est remarquablement interprété, parce qu'on aime cette histoire, on aime quand les films finissent bien, et il finit bien, mais c'est pas tiré par les cheveux, ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on désigne par cet anglicisme, le feel good movie, mais ça c'est largement au-dessus, c'est un chef-d'œuvre. À noter quand même que les télés américaine, bon, c'est pas le signe de qualité, mais les télés américaines programment chaque année à Noël. Chaque année, ce film est programmé à Noël.
Oscar du meilleur réalisateur, donc Frank Capra, pour ce film, et Oscar du meilleur acteur, James Stewart. Vous pouvez me dire quelques mots des acteurs?
Ah ben les acteurs, il y a une brochette de comédiens assez extraordinaire. Bruce Stewart n'est plus à présenter. C'est un acteur, il a tout fait. Il a été capable de tout faire. Les films comme celui-ci, les westerns, les drames, Hitchcock, il a été devant les caméras de tout le monde. Et puis il y a, moi celui que j'aime bien, c'est Henri Travers qui joue le rôle de l'ange. Tout en truculence. Clarence, oui, justement. Et il a quelque chose, vous vous souvenez du film de Carné, Marcel Carné, Les Visiteurs du Soir. Dans ce film, Les Visiteurs du Soir, il y a un diable qui vient. Parce que là, par contre, c'est beaucoup plus dramatique, Les Visiteurs du Soir. Il y a un diable qui a les traits de Jules Berry. Jules Berry, qui est un acteur français extraordinaire, qui faisait toujours les cyniques, les méchants, d'une façon extraordinaire. Eh bien, il est le positif du négatif de Jules Berry. C'est un ange truculent, là. Et puis,
c'est un ange très gauche.
Oui. Il est là, il faut qu'il arrive à avoir ses ailes. Il n'a pas d'ailes, hein. Il est un ange, c'est un ange de deuxième classe. Alors, il n'est pas très fort, hein. Mais Henri Travers, dans ce rôle-là, est extraordinaire.
On va écouter un extrait. C'est un extrait donc, quand donc le héros de ce film, George Bailey, est enfant. Il se trouve dans le bureau de son père. Son père qui a l'air d'être aussi bon que lui. Et son père fait face à un monsieur Potter, qui est un peu le diable local. Un riche mania qui veut mettre la main sur toute la ville, sans foi ni loi.
Je ne pleure pas, monsieur Potter.
Vous ne pleurez pas, vous mendiez, c'est encore pire.
Tout ce que je vous demande, c'est 30 jours de délai.
Papa.
Une minute, mon garçon. Juste 30 petits jours et je me procurerai ces 5000 dollars.
Approchez-moi de ce bureau.
Papa.
Avez-vous au moins essayé de faire pression sur les débiteurs qui doivent vous rembourser des hypothèques?
Les temps sont durs, monsieur Potter. Beaucoup d'entre eux sont sans travail.
Alors faites-les saisir.
Je ne peux pas faire ça. Ces ménages ont des enfants.
Papa. Et alors, est-ce que ce sont mes enfants?
Mais ce sont des enfants tout de même.
Est-ce que vous faites des affaires ou est-ce que vous tenez une œuvre de charité?
C'est-à-dire que...
pas avec mon argent.
Monsieur Potter, pourquoi êtes-vous aussi insensible, aussi dur? Vous n'avez ni famille, ni enfants. et vous n'arriverez jamais à dépenser votre fortune.
Ah, je suppose que je devrais abandonner mon argent à de pauvres ratés dans votre genre ou dans le genre de votre idiot frère qui chercherait de le dépenser à ma place.
Papa n'est pas un raté.
George,
vous n'avez pas le droit de dire ça de mon père.
George, voyons.
Tu n'es pas un raté, tu es le plus grand homme de la ville.
Mon
plus grand que lui. Plus grand que n'importe qui.
Ah, ça vous donne une idée des belles.
Tu devrais l'empêcher de dire du mal de toi, papa.
Oui, oui, entendu, fils, on en causera tout à l'heure.
Voilà un extrait donc où son père fait face à ce monsieur Potter. Ça peut comment dire, le bien et le mal sont clairement désignés, Paul, et pourtant c'est un film très subtil.
Oui, d'autre part, ça rejoint aussi l'histoire de Frank Capra qui a vécu lui aussi cette difficulté de trouver sa place. C'est une constante dans ces films. Capra ne cesse de raconter les antagonismes de classe dont lui il avait souffert aussi dans sa jeunesse. Et là, on voit bien comment le petit George qui assiste devant le dialogue entre ce monsieur qui dit « mais faites rendre gorge à des gens qu'ils payent ce qu'ils vous doivent » et le père dit « bah non, ils ont des enfants aussi » et tout ça. Et l'autre, c'est le cynisme pur, récupérez votre argent et donnez, rendez-moi ce que vous me devez. Et le père dit non, je ne peux pas faire ça. Et alors, ce Georges Bellet, c'est l'histoire singulière de cet homme qui représente une certaine image de l'Amérique et de sa morale. L'argent, oui, mais on ne peut pas tout faire avec l'argent. Et il y a le principe d'entraide, de solidarité lié au christianisme de l'Amérique, à la solidarité et d'un peuple qui se reconstruit. Et il faut aider les plus pauvres. Et quand ils n'y arrivent pas, eh ben, Dieu, par ses anges, même s'ils sont un peu boiteux, vient leur donner un coup de main. Et le miracle se produit. Alors, l'Amérique, c'est reconnu dans ce film-là. Et évidemment, on est aux antipodes du cynisme de Lehman Brothers ou de...
Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même un film qui a une grande actualité. Quand on sait que la crise de 2008, la fameuse crise des subprimes, c'est une crise immobilière.
Absolument.
Pas besoin de chercher très loin pour trouver un effet de miroir. C'est...
Oui.
On va écouter un deuxième extrait parce que ce film est traversé derrière par une grande histoire d'amour. Ce George Bailey a une belle et Dieu sait s'il s'aime. Il y a une... Ça fait partie des répliques. C'est comme atmosphère. Est-ce que j'ai gueule l'atmosphère? Ça, c'est... D'ailleurs, c'est les grands classiques du cinéma. On va écouter cet extrait.
Qu'est-ce que vous voulez, Madeleine? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être? Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai?
Vous l'avalerez tout entière. Et elle se dissoudra dans vos veines. Et l'on verra briller des rayons de lune dans votre chevelure, sur vos doigts. Et vous serez scintillant.
C'est aussi la... Enfin,
il fait la cour.
Le mari que tout le monde a envie d'avoir, non? Ouais.
Il est extraordinaire. Il l'a raccompagné alors qu'il vient de faire un match de football ou de baseball.
Oui, oui.
Et il est poète. Madeleine lui plaît. Il la connaît depuis qu'ils sont tout petits.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus, Louis-Marie, dans ce film? Qu'est-ce qui vous touche? Quel extrait ou quel aspect du film?
C'est tout. C'est Stewart qui, pendant tout le film, dit qu'il voulait parcourir le monde et qu'il regrette de ne pas l'avoir fait. À cause de son père, parce qu'il a repris le flambeau de son père.
Il s'est sacrifié pour son frère, pour que son frère fasse des études.
Voilà, exactement. Et lui est resté toujours là. Et il se morfond de ça. Ça le ronge. Et c'est Clarence qui, bien qu'il soit très gauche,
L'ange.
Va lui montrer que ce qu'il a fait, c'est très très important, en lui montrant ce qu'est la vie, ce qu'aurait été la vie dans cette ville s'il n'avait pas été là. Bon, et là, franchement, on passe à quelque chose de terrible.
Vous donnez le clou du spectacle, mais Dieu sait si c'est un beau passage.
C'est devenu Pottersville. La ville de cet homme plein d'argent. Tout est bien. Et la fin, elle est à l'image de tout le film. C'est extraordinaire.
Paul Dimain, pourquoi c'est un chef-d'œuvre?
Alors, parce qu'il y a aussi le côté qu'on pourrait croire sacrificiel. C'est-à-dire que Georges renonce à plein de rêves. On a dit le voyage, etc. Mais son rêve aussi, c'est que les gens puissent habiter une cité et des maisons où ils soient bien avec leur famille, avec une certaine aisance. Il sacrifie tout pour que ce rêve soit possible. Et à la fin, on a un retour quasi miraculeux de la solidarité au moment où il doit rendre de l'argent qui a été perdu. Eh bien, il y a une collecte qui est faite par sa femme, qui devient son ange, d'une certaine façon. Et tous ceux qui lui devaient de l'argent, des traites non payées, etc., raclent leur fonds de poche, et il peut rembourser, et le miracle se réalise. Donc, il y a quelque part, c'est... Eh bien, Dieu protège l'Amérique, et la solidarité l'emporte sur l'avarice.
Dieu protège l'Amérique, c'est Dieu protège, on va dire, les hommes de bien, plutôt.
Les hommes de bien, voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de châtiment pour l'horrible Potter, mais on voit qu'il a tout perdu. Lui, il a tout perdu en voulant tout gagner.
C'est fini.
Allez, le message de fin de cet ange deuxième classe qui a gagné ses ailes, Louis-Marie Soler, pour finir.
Ben c'est ça, oui.
À la fin, il lui laisse un petit mot.
Il trouve un petit mot au milieu de...
C'est comme dans le livre de Toby et Sarah. Exactement. Le livre dans l'Ancien Testament, histoire aussi de Toby qui rencontre un ange. Et à la fin, il découvre, une fois que l'ange est parti, qui était cet ange. Voilà, dites-nous le message.
Ben, Clarence lui laisse un message et sur lequel il a écrit « Cher Georges, rappelle-toi qu'un homme qui a des amis n'est pas un raté. Merci pour les ailes, amitié, Clarence. »
Voilà, merci beaucoup messieurs d'être venus commenter avec tant de brio ces trois films. Je le rappelle, Les Misérables de Ladji Lee, Mon oncle de Jacques Tati et La vie est belle de Frank Capra. Et le rendez-vous donc pour le Ciné-Parole, j'aurais dû le donner avant chaque pause, mes excuses. Ciné-Parole, c'est donc ces deux messieurs sont à la manœuvre, à la fin d'une projection pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, ils restent avec vous pour essayer de décrypter ce que vous avez vécu, essayer de mettre des mots et pas ressortir un peu tout bête du cinéma en se disant « t'as aimé, oui j'ai aimé, point à la ligne ». C'est mardi 10 décembre. Prochain, 14h30, 20h30, Les Misérables, Ladji Lee au cinéma L'ABC à Toulouse. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.